Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 900 janvier 90.
S'il y a une question, vous la posez tout de suite. Hier, nous étions arrivés à la position d'Aristote par rapport au problème de la personne. Donc comprenons bien que là, c'est comme pour Platon, Aristote ne parle pas de la personne. Mais la réalité y est. Le philosophe peut toujours, à la différence du philologue, distinguer ce que représente le mot, l'expression et la réalité exprimée par cette expression. Et il y a un texte de saint Thomas que je vous lirai quand on sera à saint Thomas, qui est extrêmement net et qui dit « Le philosophe ne discute pas sur les mots, mais sur les réalités. » Et c'est la même chose pour le théologien. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler très très fort aujourd'hui. Parce que la philologie a pris place de la philosophie. Et pour le philologue, si le mot n'est pas là, la réalité n'est pas là. Tout un contexte de philosophie allemande, c'est très très net ça. Je me souviens, c'était les grosses discussions à Fribourg. Où les philologues veulent prendre constamment la place du philosophe. La philologie, c'est très intéressant, c'est capital d'une certaine manière. Mais la philosophie dépasse le point de vue des mots pour atteindre la réalité. On fait la philosophie de l'homme et non pas des mots. Personne signifie l'homme dans son autonomie, dans sa réalité existante, dans sa totalité. Le mot personne tel qu'on l'emploie aujourd'hui. Donc, dans cette topique, j'essaie de voir comment les philosophes grecs, puisque nous sommes dans la philosophie grecque, ont atteint d'une certaine manière, l'homme. Est-ce qu'ils l'ont atteint dans sa dignité propre d'homme, c'est-à-dire d'être capable de se diriger, de s'orienter, dominant ses activités? Puisque c'est ça la personne. Or, c'est assez net quand je regarde l'éthique d'Aristote. Je vois que l'éthique d'Aristote regarde l'homme en tant qu'il est capable de se diriger, en tant qu'il est capable d'être responsable de ses activités. C'est l'aspect volontaire. Là aussi, notez, parce que ça fait partie de ces problèmes actuels, certains prétendent que le problème de la volonté n'est pas présent dans Aristote, la poulicis. Alors que toutes les dits d'Aristote reposent sur l'activité volontaire. Alors vous voyez, c'est très gros. Mais c'est un fait que si la philologie remplace la philosophie, on dira la poulicis, donc l'aspect de la volonté, n'a été découvert qu'avec les stoïciens. C'est un problème actuel. Il faut comprendre ces problèmes-là. Je n'insiste pas, mais je l'ai dit quand même, parce que si je ne l'ai dit pas, lorsque vous les rencontrerez, vous dites, mais on m'a jamais dit ça. On a considéré que Aristote avait découvert le point de vue de la volonté. Regardez l'éthique. Il faut tous avoir lu l'éthique d'Aristote. Ça fait partie de ces livres qu'on doit avoir lus. Si on peut la lire en grec, on la lit en grec. Si on peut la lire en latin, on la lit en latin. Si on peut la lire en langue vulgaire, on la lit en langue vulgaire. Autant que possible, il faut revenir constamment au texte grec d'Aristote. Parce qu'il y a des distinctions qu'on ne peut les comprendre que comme ça. Alors c'est net que pour Aristote, l'acte volontaire est un acte par où l'homme se dirige lui-même. Et l'amitié représente pour Aristote, la philia représente pour Aristote un lien personnel, même si le mot n'y est pas, avec l'ami. On choisit l'ami. Et l'ami est au-dessus de ce que représentent les biens utiles. Il y a trois types d'amitié. L'amitié vertueuse. C'est très difficile à traduire. Mettons l'amitié tout court. Nous dirions aujourd'hui l'amitié personnelle. L'amitié de jouissance et l'amitié utilitaire. Cette distinction que fait Aristote nous montre bien que pour lui, l'amitié au sens fort dépasse la jouissance, dépasse l'aspect utilitaire. Mais l'amitié utilitaire, c'est très simple à comprendre. C'est l'amitié qui existe entre voleurs. J'aime bien d'avoir comme ami, si je suis un voleur, un type astucieux, un type fort, qui saura toujours, même quand je serai dans des circonstances très difficiles, me dépanner. Donc c'est mon ami. En réalité, c'est un merveilleux ami au niveau utilitaire. C'est pas la personne que j'aime, c'est son astuce. Et c'est la même chose au point de vue jouissance. C'est pas la personne que j'aime, c'est la joie qu'il me donne. Oui, petite distinction très nette, mais très intéressante. Hein. Ces trois degrés de l'amitié que saint Thomas a repris. Et qui montre bien que pour Aristote, l'amitié est un bien absolu. De sorte que je crois qu'on peut dire que quand on regarde attentivement le traité de la philia, deux chapitres, je crois 7 et 8 dans l'éthique, deux chapitres dans l'éthique, qui sont merveilleux. Il n'y a pas un traité d'amitié aussi fort que celui-là. Difficile à comprendre. J'en avais fait l'analyse à Fribourg, ça devait paraître un avant et vétéran, et puis le texte a été perdu. Mais c'est intéressant de le faire, ça n'a pas d'importance, il faut le refaire chacun soi-même. L'analyse de la philia dans l'éthique d'Aristote. C'est un très beau sujet, ça. Et ça vaut la peine d'essayer d'étudier ce qu'Aristote donne sur la philia. Aristote parle de la contemplation, ce qui montre bien aussi que c'est un acte personnel. Le bonheur. Le bonheur ne peut être qu'attribué à une personne. Un animal ne peut pas avoir le bonheur. Un enfant ne peut pas avoir le bonheur. Il faut la personne humaine, capable de s'orienter elle-même dans une pleine liberté. Toute cette question de la personne chez Aristote repose sur la distinction de l'âme et du corps. Alors, ce n'est pas au niveau du péripsychès que nous allons découvrir ce qu'est la personne d'Aristote, ce qu'est la personne pour Aristote. Mais le péripsychès est fondement de toute l'anthropologie d'Aristote. Le traité sur l'âme. Le traité sur l'âme est quelque chose de très très beau, c'est une des plus belles œuvres d'Aristote. Là aussi, il faut l'avoir lu dans ses études philosophiques. Si on ne l'a pas encore lu en troisième année, il faut se dépêcher de le lire. Parce que c'est quand même quelque chose de capital. Et si on peu le commentaire de saint Thomas. Il y a quelques œuvres comme ça auxquelles il faut revenir constamment. Parce que c'est ça qui donne une structure de la pensée. Et le péripsychèse, c'est quelque chose de très très important. Alors, le péripsychèse, c'est la découverte de l'âme. Et la grande question de l'âme spirituelle. Le rapport entre l'âme et le nous. C'est la grande question d'Aristote. Alors ça, c'est très très intéressant de voir que c'est la grande question de ce traité sur l'âme, de savoir si l'âme, qui est substance, est esprit. Est-elle nous? Nous, l'esprit. L'intelligence. Et Aristote ne conclut pas. Et vous comprenez bien que c'est là tout le problème de la personne. C'est pour ça que c'est intéressant de le voir à son origine. Il y a la phosis, c'est-à-dire la nature. La nature humaine implique âme et corps. L'âme, quel est son lien avec le nous? C'est-à-dire tout le problème de l'âme spirituelle. Le problème est posé chez Aristote. Alors vous comprenez que on est en présence avec le Péripsychès dans le livre 3 du Péripsychès. On est en présence de tout le problème de la nature et de la personne. La personne implique l'intelligence. Et la nature, c'est l'âme et le corps. Comment voir dans l'homme une nature humaine et une personne? C'est tout le problème moderne qui est reposé et qu'Aristote avait posé, qui n'a pas conclu. Il a simplement posé. Nous faisons partie de la nature. Il y a une nature animale, il y a une nature humaine. Il y a une nature cheval, il y a une nature humaine. Il y a une nature abeille, il y a une nature humaine. Est-ce que cette nature, qui implique le point de vue de la génération, est-ce qu'elle est une personne? Mais le problème très 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 difficile. Nous dépendons de nos parents. Là, nous sommes nature. Et cependant, nous avons notre autonomie. Notre autonomie individuelle. Si Aristote avait découvert le chiffre biologique, il aurait été très content. Il a dit, voyez, voilà, l'individu a son autonomie. Irréductible. Avec tous les autres individus. Alors, comment découvrir le lien entre la nature, âme, corps, et le point de vue du nous, donc le point de vue de la personne? Est-ce que le nous est substantiel en moi? Si le nous n'est pas substantiel, ce n'est qu'accidentel. C'est un nous accidentel. C'est un petit chapeau, très beau, mais ce n'est pas l'homme, c'est quelque chose d'accidentel. Est-ce que rationnel est substantiel à l'homme? Est-ce que le nous est substantiel à l'homme? Donc vous voyez, ça c'est le gros problème du Péripsychès. Et c'est bien traité, c'est-à-dire que si on lit attentivement, on voit bien qu'Aristote est resté devant une interrogation. Est-ce que mon nous est substantiel? Vous voyez, c'est tout le problème de l'immortalité. Est-ce que quand je meurs, il y a quelque chose qui reste? Est-ce que la personne demeure? Est-ce que le nous demeure? juste beurre, il faut qu'il soit ousillant. Donc il faut qu'il soit substance. Un accident ne peut pas demeurer sans la nature dans laquelle il s'enracine. Alors voyez, il faut bien comprendre ça face à Platon. Platon, lui, commençait par l'âme immortelle. Tout de suite. Alors, posant tout de suite l'âme immortelle, il n'y avait pas de question. En réalité, nous n'étions pas une nature. Nous étions une âme spirituelle, liée au corps accidentellement. Si au contraire, je dis que l'union au corps, de l'âme et du corps, est substantielle, alors, à ce moment-là, est-ce que le nous est quelque chose de substantiel? Mais c'est là le dilemme entre la pensée d'Aristote et la pensée de Platon. La pensée de Platon directement va du côté de l'âme spirituelle, de l'âme immortelle, et le corps est traité comme quelque chose de secondaire. Aristote, au contraire, considère que nous devons partir de l'expérience. Or, l'expérience montre que je suis un. J'ai aucune expérience de mon âme séparée. Ça devient dangereux. J'ai l'expérience de mon unité substantielle. Quand je dors, quand je me veille, quand je mange, quand je pense, c'est moi. Et c'est mon corps aussi. Il est présent à tout. Alors comment comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui dépasse le corps, qui est au-dessus du corps, l'esprit? Et comment l'esprit peut-il subsister? Donc vous voyez, c'est très très important de comprendre ça, ce qui montre bien que le problème de la nature et de la personne chez Aristote n'est pas résolu, mais il est posé. Et quelquefois c'est plus important de poser un problème que de le résoudre au plan philosophique. Parce que ça montre qu'on voit avec acuité la difficulté, la complexité de l'homme. Il est à la fois esprit, il est à la fois nature. Il s'enracine dans tout le monde physique par son corps et il est esprit. Alors, dans quelle mesure, étant esprit, peut-il, lui, rester quelque chose de substantiel? Alors, c'est là où c'est très juste le problème posé. C'est le problème de l'acte qui va donner la solution. C'est pas le problème de la substance. Le problème de l'acte me met en présence de la finalité. C'est par la finalité que je découvre que le nous, l'esprit en moi, est substantiel. Oui, alors c'est ça qui est très curieux. C'est ce double mouvement constant de la recherche d'Aristote. On va de la substance à l'acte, ou on va de l'acte vers la substance. Eh bien, ce double mouvement, le péripsychès va de la substance vers l'acte. Et quand je suis en face de l'acte, je dis la substance, l'acte implique la substance. Et c'est là où on peut comprendre, on le verra, hein. Je pose simplement les fondements. On verra le problème de la substance et de la personne. Le problème de la personne ne peut se résoudre que par l'acte. Et le problème de la substance me lie à la phusis, me lie à la nature. Alors, comprenez qu'il y a au moins là un problème extrêmement important, qui est le problème devant lequel on se retrouve aujourd'hui. Quand on cherchait savoir à quel moment l'âme humaine, spirituelle, était créée par Dieu. Problème de sagesse philosophique. C'est ce problème de la personne et le problème de la nature. Et c'est toujours ce même problème. Alors, il faut distinguer, il ne faut surtout pas séparer. Ma nature et ma personne, ça ne fait qu'un. C'est sûr. Mais je distingue autre chose et la nature, autre chose, la personne. La nature, principe immanent d'opération vitale. Une nature vivante. La personne, principe d'autonomie dans l'ordre de l'être. Donc d'un côté, c'est la vie. De l'autre côté, c'est l'être. Donc il faut bien saisir ces deux aspects. Et encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais mon être, c'est ma vie. Et cependant, je distingue en moi l'être et la vie. La mort détruit le composé vital qui est moi, mais ne détruit pas mon être. La mort ne m'anéantit pas. Mais la mort brise le tout vivant que je suis. La composition de l'âme et du corps. Oui, là, il faut bien comprendre qu'Aristote a saisi avec beaucoup de force dans son livre du Péripsychès, traité de l'âme, le fondement de la personne. Alors il ne le dit pas, hein. C'est moi qui le dis. J'explicite Aristote en disant ça. J'explicite en projetant sur Aristote le problème actuel. Et j'essaie de comprendre par là le problème d'Aristote face à Platon. Toujours comprendre Aristote face à Platon. Non pas du tout pour expliquer Aristote par Platon, mais pour montrer le problème dans toute son acuité philosophique. Alors, évidemment, une fois qu'on a compris ça, que nous étions en face du problème de l'acte, on va comprendre que le problème éthique, le problème de l'âme, ne pourra trouver sa véritable solution qu'en philosophie première, c'est-à-dire en métaphysique. Oui, l'éthique nous montre le problème de l'ami, le problème du contemplatif. L'âme nous montre le problème de la nature humaine et pose le problème du nous. Et c'est par l'acte que je peux comprendre que le nous s'enracine dans la substance. Et pour pouvoir le comprendre pleinement, il faut nécessairement découvrir le problème de la philosophie première. Et dans le problème de la philosophie première, je découvre le dépassement de l'ousia dans la découverte de l'acte. Le problème métaphysique, tel qu'Aristote le montre, et je crois tel que de fait, il faut le comprendre, nous montre que si la substance donne la structure de ce qui est en tant qu'être, la substance ne peut pas être adéquate à ce qui est. Il faut découvrir l'être en acte. Parce que l'être n'est parfaitement intelligible que grâce à la finalité, que grâce à la fin. Et le problème de l'être en acte assume la substance. Donc découvrir l'être en acte, c'est découvrir un aspect primordial de l'être, donc substantiel. L'être en acte est substance. Mais il est plus que la substance. Et il est substance. Puisqu'il est l'être premier. Et que l'être premier est substance. Alors par là, je comprends que si le nous est acte, il est l'âme substantielle. Et là, je crois qu'on saisit ce problème-là tout le problème d'Aristote et toute la structure profonde de la philosophie aristotélicienne face à Platon. Et vous voyez bien que ça se ramène bien au problème de l'âme. Tout le platonisme s'explique par le problème de l'âme. Tout l'aristotélisme s'explique par le problème de l'âme. Ce sont des philosophes qui ont compris l'importance du problème de l'âme. C'est le problème de l'âme qui, dans leur philosophie, est explicité principalement. Le problème de la personne n'est pas explicité. Dans la philosophie contemporaine que nous verrons, le problème de la personne est explicite et le problème de l'âme est oublié. Alors là, vous touchez ces deux extrêmes de notre philosophie occidentale. Et je crois que c'est là où on verrait toute la différence entre la philosophie occidentale et la philosophie orientale, celle de l'Inde. Celle de l'Inde reste au problème de l'âme. Ce qui va caractériser la philosophie occidentale, c'est le problème de la personne. Liberté, personne. Alors ceci nous fait poser tout de suite, avec beaucoup d'acuité, ce fameux problème que Gilson pose, le problème de la philosophie chrétienne. Est-ce qu'au fond, la différence entre la philosophie occidentale et la philosophie de l'Inde, est-ce que c'est pas parce que il y a eu le ferment chrétien? Ça, ce sera la solution de Gilson et de Maritain et de tous ceux qui suivent Gilson et Maritain, qui sont tous les thomistes aujourd'hui. C'est très intéressant de voir ça, parce que je crois que c'est très intéressant de voir que pour eux, le problème de la personne est un problème de philosophie chrétienne. Moi, je dis non. Mais c'est là où il y aura tout un problème très important. Je dis, nous allons le voir. C'est pour ça que je fais toute une topique sérieuse. Parce que je ne peux le faire que si je fais une topique historique. Autrement, je ne traite pas la question. Et je regrette que Maritain n'ait pas fait ça. Ni Gilson. Ils l'ont traité comme un problème actuel sans voir toute l'historique. Alors je dis non. Pourquoi? Parce que je dis que le mot est déjà présent dans la philosophie stoïcienne. Le mot personne. Et la réalité est présente dans l'aristotélisme. De sorte que nous ne disons pas que le problème de la personne est un problème de philosophie chrétienne, disons que le problème de la personne a été mis en pleine lumière avec le problème de la théologie. Alors ça oui, de la théologie chrétienne. Mais il existe avant. Mais il est mis en pleine manifestation. L'épiphanie de la personne provient des théologiens, mais pas la réalité profonde. La réalité profonde est avant, oui, c'est la crèche, Noël et l'épiphanie. L'épiphanie, ce n'est pas la crèche, mais l'épiphanie n'existerait pas s'il n'y avait pas la crèche. S'il n'y avait pas tout le mystère de la naissance de Jésus, il n'y aurait pas l'épiphanie. L'épiphanie, c'est la manifestation. Eh bien, je crois que la philosophie chrétienne manifeste la personne d'une manière étonnante. Mais ce n'est pas la philosophie chrétienne qui me fait comprendre la personne. Là, il y a un problème très, très important qui m'a toujours tracassé. Et je crois ne trouver la solution qu'avec le problème de la personne. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce problème de la personne. Parce que d'abord, c'est très actuel. Par le problème de la personne, on montre que le retour à Aristote n'est pas de l'archéologie. Le retour à Aristote, c'est pour découvrir en profondeur l'être en acte. Et que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la personne si nous ne regardons pas l'être en acte. Ce que nous verrons, je vous le dis tout de suite, parce que nous sommes là devant ce problème avec Aristote. L'être en acte, c'est capital. Sans l'être en acte, je ne peux pas résoudre ce dilemme qui est le dilemme actuel, la personne, la nature. Vous voyez, le gros problème des théologiens d'aujourd'hui, le gros problème des théologiens chrétiens d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a une théologie morale personnaliste et une théologie morale naturaliste. La théologie morale de la personne, la théologie morale de la nature. La théologie morale de la personne, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. La théologie morale de la nature, c'est celle de saint Thomas. C'est faux, cette division-là. C'est très faux. C'est une méconnaissance complète de saint Thomas. Mais c'est comme ça que ça se résout. Alors ça, d'immenses persécutions, d'immenses conséquences dans toute la question de la théologie morale, du mariage, le point de vue sexuel et tout, 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 tout. Ça repose là-dessus. Si on veut aller jusqu'au bout de la compréhension des choses, si on prend les choses de l'extérieur, alors on dira, ce sont des écoles qui se battent. C'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et alors le problème s'est posé avec Aristote. Si je ne reviens pas au problème tel qu'il s'est posé avec Aristote, entre éthique, péripsychès et métaphysique, je ne comprends pas. Oui. Alors, j'espère qu'au moins vous comprenez qu'il y a là un lièvre caché derrière un bosquet. Et que le philosophe, comme dit Platon, doit être celui qui est un chien de chasse, qui pose la question, il y a là le lièvre. C'est là le problème. Découvrir la personne dans son exercice d'éthique. La personne dans sa structure, la nature, et l'unité philosophie de l'acte. Les trois aspects. Faut tenir et qu'il faut analyser. Alors, j'ajoute tout de suite, parce que c'est important par rapport à la philosophie contemporaine, je ne peux donc absolument pas comprendre le problème de la personne sans regarder le problème de l'âme spirituelle. Alors, au moins, poser quelques questions. Je ne vous demande pas de les résoudre. Je vous demande de vous les poser. De voir qu'avec Aristote, on est devant un problème très aigu et très important de la nature, donc de l'âme et de la personne, et de la métaphysique de l'acte. Et vous comprenez, à ce moment-là, je reviens sur le problème de la philosophie chrétienne, que le problème de la personne s'est posé avant le christianisme. Mais le christianisme a développé d'une manière étonnante le problème de la personne et le problème de la liberté. Mais le problème de la liberté s'est posé avant pourrait dire qu'on ne peut concevoir la personne humaine que si on est chrétien. On ne peut concevoir la liberté que si on est chrétien. C'est faux. Le problème de la personne et le problème de la liberté est un problème philosophique. Premièrement. Mais ce problème philosophique va prendre, avec la foi chrétienne, tout un développement. C'est comme le problème de la création. Le problème de la création est un problème philosophique, mais qui, avec le point de vue de la foi chrétienne, va prendre un développement et une manifestation énorme. J'espère que vous voyez ça. Il faut y réfléchir. Si vous ne voyez pas, poser vos questions à vos parrains, qui doivent comprendre, puisqu'ils sont en troisième année, ils doivent comprendre ça de façon parfaite, et pourront vous éclairer. Et s'ils ne peuvent pas vous éclairer, vous reviendrez. Parce que je crois qu'on touche un os, là, qui va très loin. Parce que c'est tous les problèmes actuels. Et si on les trouve là, on peut les résoudre. Avec intelligence. Et voir où se situe le nœud. Alors je continue cette philosophie d'Aristote. Si pour Platon, c'est le problème de l'immortalité, page 684 dans le livre sur l'être. Si pour Platon, c'est le problème de l'immortalité de l'âme qui fonde toute la philosophie, le problème de la destinée de l'homme, prenant par là toute sa valeur. Pour Aristote, c'est l'expérience que nous avons du désir du bonheur, de l'amitié, de la contemplation, qui finalise toute la philosophie. Sa conception implicite de la personne humaine est donc beaucoup plus complète que celle de Platon et de ses prédécesseurs. Car c'est vraiment le désir d'être heureux impliquant le volontaire, qui permet de saisir ce double épanouissement de l'homme, celui de la contemplation et celui de l'amitié. Et l'amitié exigeant la justice. Et les rapports de l'amitié et de la justice vont faire comprendre les rapports entre l'éthique personnelle et l'éthique politique. Aristote considère l'homme d'une manière concrète, avec son corps. Et cependant, il maintient que c'est la vie du nous qui caractérise profondément la vie de l'homme, qui la spécifie, et que c'est son épanouissement qui permet à l'homme d'être pleinement lui-même, donc d'être une personne. On peut donc dire que pour Aristote, la personne ne peut se saisir que par la vie propre du nous, donc l'acte. Mais, il faut réfléchir là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ni chez Platon, ni Aristote, l'expression personne est présente. Le mot personne pour Aristote, c'est le masque. Donc c'est dans l'art. Prosopone. Et la réalité est présente. Chez les épicuriens, la conception du bonheur humain est tout autre. C'est le plaisir. Alors, est-ce que le plaisir va nous permettre d'avoir une conception de l'homme? S'il ne faut pas se laisser aller à tous les plaisirs, surtout aux plus immédiates, aux plus sensibles. C'est pour jouir mieux et plus intensément des plaisirs supérieurs. Les épicuriens, pas plus que les stoïciens, n'ont de métaphysique. Suppression de la métaphysique. Immédiatement après Aristote. Extraordinaire, ça. Les épicuriens et les stoïciens, qui sont les deux grandes formes de la morale post-aristotélicienne. Il faut bien comprendre ça. C'est très important, ça, pour le problème dans lequel nous nous posons. Hein. Toujours cette trilogie, hein. Socrate, Platon, Aristote. C'est capital cette trilogie. Et Aristote prétend être plus fils de Socrate que Platon. Aristote fait ça. Il y a eu, nous dirions, dans un style freudien aujourd'hui, il y a eu la révolte du fils à l'égard du père. Et le petit-fils est revenu au grand-père. Hein, vous voyez bien ça? C'est sûr. C'est une sorte d'opposition. Et très très particulière, hein. L'idéologie de Platon par rapport à Socrate. Socrate est bien plus réaliste que Platon. Platon est quand même, c'est un idéologue, Platon. Je dis pas un idéologue au sens absolu, c'est quand même l'idée, c'est l'aïdos qui est placé au-dessus de tout. Alors, philologiquement parlant, c'est un idéologue. C'est le logos de l'idée. Aristote revient à l'attitude concrète. Après Aristote, vous avez deux grandes écoles. L'aristotélisme va continuer. Mais, hein. L'aristotélisme continue avec Théophraste, qui n'a pas la dignité de son maître, évidemment. Ça, c'est sûr. Vous avez l'épicurisme, et mettons-le au bas. Puis vous avez les stoïciens. Puis entre deux, les péripatéticiens. Donc trois grandes positions éthiques. Pour Épicure, c'est la jouissance.
Certaines éditions d'Épicure, les maximes d'Épicure, qu'est-ce que vous voyez?